Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h05, vendredi 29 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Ciel généralement ensoleillé, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui. Puis une très, très belle fin de semaine. C'est encore un peu frais ce matin, mais le mercure va monter. Le maximum aujourd'hui, 12 degrés. Demain, du soleil, 14. Et dimanche, 1er mai, encore là, journée ensoleillée et 17 degrés. Le point sur la guerre, 65e journée. On a vu hier ces bombardements ciblés sur la capitale pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, Tetiana Ogarkova est avec nous et elle est à Boutcha ce matin. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation à Boutcha?
Oui, en effet, je viens d'arriver à Boutcha. Donc, j'ai vu des maisons détruites sur la route. On a pris aussi le pont qui a été détruit durant cette attaque russe. Il est reconstruit. Bon, on ne peut pas dire reconstruit, mais on a pu quand même prendre ce pont. Je me trouve à côté de l'église, en fait, l'église où il y a cette fosse commune, d'après ce qu'on nous dit, une des plus grandes à Boutcha. Pour l'instant, il n'y a pas de mémorial. Il y a juste, on voit juste une fossée déjà remplie de sol, en fait. On voit, par exemple, une chaussure. On voit aussi les sacs en plastique dans lesquels, comme on peut imaginer, les corps ont été transportés. Et donc, c'est un endroit triste qui n'est pas encore aménagé. Ça sera sans doute aménagé dans les semaines ou les mois qui viennent, en fait. Et on voit des gens qui viennent visiter, peut-être se recueillir. Il n'y a pas de fleurs. C'est pas comme des tombes qu'on a à l'habitude, c'est juste un endroit. On sait que ici c'est la fosse commune, mais ce n'est pas encore aménagé.
Maintenant, revenons sur l'attaque hier, ces missiles lancés sur la capitale, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était présent, était en visite.
Oui, tout à fait. Hier, il y avait 5 missiles qui ont été envoyés sur Kyiv et 2 sont aboutis. Donc, il s'agissait bien du quartier central dans l'arrondissement qui s'appelle Shevchenkivsky. C'est le quartier Poudil où, justement, il y a mon académie où j'enseigne. Les gens rapportaient. Nous, on n'a pas entendu, on était sur la rive gauche, on n'a pas entendu l'explosion. Mais les gens qui étaient présents sur place rapportaient que c'était une explosion énormissime. Je viens d'apprendre, il y a une demi-heure, que notre collègue journaliste de Radio Free Liberty, Radio Svoboda, qui s'appelle Vira Gimic, a perdu sa vie lors de cette attaque. Son corps était retrouvé ce matin dans les décombres. Donc, cette attaque a fait une dizaine de blessés. C'était un immeuble neuf. Et donc, il y avait moins de résidents, en fait, que par rapport à l'habitude. C'était un immeuble tout neuf. En fait, et donc c'est pour ça qu'il y a moins de victimes et moins de blessés qu'on pouvait attendre normalement. Bien sûr, c'est une frappe tout à fait symbolique. Elle exprime l'attitude de la Russie envers l'ONU, en fait, parce que Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov recevaient, en fait, Monsieur Guterres il y a 2 jours, en fait, à Moscou, on a vu cette photo de la table longue de Poutine avec Monsieur Guterres. Il était tout à fait à côté, d'après l'administration du président, le bureau de président. Il se trouvait à quelques kilomètres au moment de la frappe. C'était justement à la fin de leur conférence de presse que les frappes ont arrivé. C'est vraiment tout près, en fait. Et donc, c'est un geste symbolique qui montre leur attitude. Et donc, on se pose la question, comment est-ce qu'un pays qui se permet de frapper la capitale lors de la visite du secrétaire général, comment est-ce que ce pays peut avoir le droit de veto au Conseil de sécurité de l'organisation ONU?
Très bonne question, évidemment. Peut-être un mot sur Mariupol. On parle encore ce matin de l'évacuation de civils.
Oui, tout à fait. Monsieur Guterres a annoncé qu'il allait faire mettre les efforts dans ce couloir humanitaire pour sauver les gens de Azovstal. Ce matin, on a lu en fait par le bureau de président Zelensky qu'il y ait des choses qui se préparent. On croise les doigts. Ils disent que tout ce qui possède d'informations, merci de rien dire justement. Il y a une opération qui se prépare. On prie vraiment que les gens puissent sortir parce qu'hier, avant-hier, ils ont bombardé cet hôpital improvisé à Azovstal et plusieurs blessés militaires qui étaient là sont morts en fait à cause de destructions causées par ce bombardement. On croise les doigts parce qu'on a bien, on tient en tête les images de visages des enfants qui sont à l'intérieur. Ils sont encore en vie. Donc, on prie pour que ça soit possible aujourd'hui.
Merci beaucoup, Tetiana. Un bon week-end à vous et puis on se reparle lundi matin. On poursuit la revue de presse. Dossier de Katia Gagnon aujourd'hui concernant le rôle ou l'inaction dans plusieurs dossiers de la Commission de la protection, en fait, des droits de la personne puis des droits de la jeunesse. Et on prend l'exemple du dossier de la petite fille de Granby, des signaux d'alerte qui avaient été envoyés 4 ans avant la mort de l'enfant. Et on découvre donc que dans ce dossier-là, il y a eu la grand-mère qui a témoigné à plusieurs reprises. Elle est venue raconter pendant 7 jours ce que vivaient les enfants, la petite en particulier, son rôle. Je ne reprendrai pas tout ça ce matin. Mais on sait donc qu'il y a eu enquête du coroner, il y a eu ses procès, et que cet enfant-là a comme échappé au système. Et là, ce qu'on remarque, c'est que la Commission des droits de la personne puis des droits de la jeunesse se désiste de plusieurs dossiers. Et là, tu te dis, mais si la Commission ne s'occupe pas de ces dossiers-là, qui va le faire? Et vous avez plusieurs témoignages dans ce reportage où la réponse de la Commission, c'est de dire, nous, on s'occupe des problèmes qui sont plus dans le système et pas des cas particuliers, ou moins de cas particuliers. On veut changer le sort de plusieurs enfants, puis on va mettre nos énergies là-dessus. Mais qui va s'occuper de protéger les enfants quand la commission se désiste? Quelle sorte de signal on envoie en disant que c'est pas fondé, c'est pas grave? Il n'y a pas un ou plusieurs enfants qui sont en danger dans des situations comme celle-là, ça fait réfléchir beaucoup. Et on a créé une directrice nationale, on a adopté un projet de loi, l'enfant est toujours au cœur des priorités, des décisions. Mais là, quel est le mandat exact de la commission? Et si ce n'est pas la commission qui s'occupe de ça, qui va le faire? Un ombudsman pour protéger les enfants? Contre, ça peut être des abus d'adultes, mais ça peut être des abus du système aussi ou des négligences du système. Alors, ça demeure évidemment très, très préoccupant. Vous lirez ça dans la presse de ce matin. Le port du masque devrait, parce qu'on met ça au conditionnel, obligatoire, prendre fin le 14 mai. La santé publique va se faire une tête dans les prochains jours, mais le docteur Boileau, à qui on va parler tantôt, a déjà indiqué que pour lui, même si la prudence est toujours de mise, on sent finalement qu'on sera en mesure de permettre la fin de l'obligation. Alors, il y a des gens qui vont continuer à le porter, puis c'est correct, puis ils n'ont pas à dire pourquoi. C'est comme ça, puis ce sont des choix personnels. Ça, c'est la première chose. La deuxième, selon les indicateurs, il semble qu'il y a moins de contagion dans la communauté et que, bref, le bilan s'améliore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres variants, ça ne veut pas dire qu'à l'automne, on n'aura pas encore des cas. Ça veut juste dire qu'avec le beau temps qui finalement arrive, puis qu'on est plus à l'extérieur, puis qu'on peut davantage aérer, ben, le niveau de risque est quand même un peu plus acceptable. Alors voilà pour ce qui est du port du masque. Maintenant, si on regarde le réseau de la santé, dans Le Devoir, ce matin, on revient sur la situation dans les urgences, mais en particulier à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, la capacité 200%. Pas des farces, là, 200%. À un point tel qu'il y a un patient qui a dû être installé, dit Le Devoir, sur une chaise avec une petite table mobile, donc à ses côtés, parce qu'on n'avait pas de civière pour cette personne-là. Et le syndicat dit qu'il y a d'autres patients qui sont dans des salles. Il n'y a pas de sonnette pour demander de l'aide en cas de problème. On est au Québec, là. Comment est-ce qu'on peut... Puis c'est pas la première fois qu'on parle de ces pressions extrêmement fortes sur des salles d'urgence précises, comme celle de l'hôpital Anna-Laberge. Donc, c'est dans le devoir que vous allez avoir les détails ce matin. Je veux parler de la situation à la FTQ, construction. Hier, la presse nous rapportait que Rénal Grondin, le président, avait harcelé et agressé une secrétaire pendant 2 ans quand il était directeur général de l'Association des manœuvres interprovinciaux, qui est un syndicat branché sur la FTQ Construction, puis depuis ce temps-là, il était devenu le président. Et il y avait une décision de la Commission des lésions professionnelles qui date de 2012. Et là, hier, le ministre Jean Boulay a pété une coche, a appelé le président de la FTQ, puis il a dit « ce gars-là peut pas rester ». Puis rapidement, entre guillemets, Rénal Grondin a démissionné. Là, moi, une couple de questions ce matin. Je ne veux pas trop télégraphier d'avance parce qu'on va parler avec le président de la FTQ. Mais qui savait quoi concernant ça? Puis quelle sorte de message t'envoie aux employés de la FTQ Construction que tu tolères le harcèlement? C'est pas une rumeur. Le gars a été condamné, puis il y a plein de gens qui le savaient, puis qui n'ont pas dit un mot, ou qui ont laissé faire. Quelle sorte de message t'envoie aussi aux femmes qui travaillent, membres de la FTQ Construction, sur la place du harcèlement puis de la tolérance que la FTQ Construction semble illustrer? S'il n'y a pas l'article dans la presse, s'il n'y a pas le coup de pied du ministre Boulay, il arrive quoi? Monsieur reste? C'est pas un secret, là. C'est pas une allégation, pas une rumeur. Il y a une décision qui avait été rendue en 2012. Puis personne à la FTQ était au courant de ça. Dernière question, va-t-il y avoir une enquête interne, savoir qui savait quoi? Pose des questions de même. Mais avouons que c'est assez spécial. Journal de Montréal ce matin, des images troublantes d'un ancien militaire qui a été expulsé à vie d'un club de tir en Estrie. Il invitait des jeunes à se rendre avec lui, tirer. Il faisait de la promotion sur les réseaux sociaux. Puis on invite les jeunes à venir tirer en secret, puis il offrait sur le web son arsenal pour 160 $. Puis le club de tir n'était pas au courant de ça. Puis là, vous avez des images, des vidéos qui circulent. Alors, vous allez pouvoir regarder ça. Hier, Québec a présenté son plan pour lutter contre les gaz à effet de serre, et on va en parler avec le professeur Pinault, puis nos commissaires ce matin, mais je ne sais pas trop comment le prendre. Parce que hier, ce qu'on nous a annoncé, là, c'est encore plus d'argent. Mais en même temps, on nous dit, vous savez, on va mettre beaucoup de fric, mais on ne sera pas capable d'atteindre plus que 50 % de nos objectifs. Et là, tu te dis, est-ce que c'est mieux ça, de dire c'est le maximum qu'on va aller chercher, que les discours du gouvernement fédéral, qui sont évidemment toujours extraordinaires, puis on a des cibles, puis de se faire dire par le commissaire à l'environnement que c'est de la frime, que les prétentions du fédéral, c'est un show de boucan. Et dans le plan présenté hier, on comprend que ce sont un peu toujours les mêmes mesures, là, c'est-à-dire électrifier les transports, amener les gens donc vers les véhicules électriques. Il y a toute la question du marché du carbone. Regardez le prix de l'essence ce matin, on n'est pas loin de 2 $. Puis c'est sûr qu'on se dirige vers ça probablement là, pour la période estivale, quand les gens vont se remettre à circuler. Mais je rappelle toujours, c'est comme une équation qui revient, c'est-à-dire des rapports qui sonnent l'alarme depuis des années, des rapports des Nations Unies. Quand vous regardez les températures en Inde actuellement pour Pakistan, là, si vous pensez qu'il n'y a pas des bouleversements sur la planète avec du 50 degrés, vous allez me dire, ouais, mais c'est des endroits, je comprends. Mais même, je lisais ce matin des experts là, qui disent que ces vagues de chaleur intense vont se multiplier. Donc, on a ces rapports. Puis d'un côté, les gouvernements, de deux choses l'une. Ou ils nous comptent des histoires qui ne tiennent pas la route avec des grands engagements, des grandes promesses, puis des cibles, puis des objectifs qui ne sont jamais atteints. Ou encore, ben, il n'y a rien à faire. Puis il faut baisser les bras, puis se contenter de ce 50 %. C'est un peu ce que disait hier les partis d'opposition. Quand le ministre nous annonce que c'est 50 % le même gouvernement qui nous dit qu'on va augmenter le taux de nickel dans l'air à Québec, quand les gens de santé publique, quand même le port de Québec dit que ça n'a pas de bon sens, on essaie de comprendre la logique derrière ça aussi. Également, vous dire, il y a encore une étude qui est publiée sur le marché immobilier et qui nous montre que, finalement, le prix des maisons en 2023 risque de baisser. Parce que là, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, on pourra encore avoir pas mal de spéculation d'ici la fin de l'année. Mais ça devrait, pour Montréal, à tout le moins se stabiliser quelque part au début de l'an prochain. Donc, vous pouvez trouver ça ce matin, tous les détails dans The Gazette. Voilà, ça fait le tour de nos manchettes pour ce vendredi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
7h27. Donc, le port obligatoire du masque dans certains endroits publics pourrait être levé dès le 14 mai. Je dis bien pourrait parce que la décision finale sera annoncée la semaine prochaine. Le directeur national de la santé publique par intérim est avec nous, Dr. Luc Boileau. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, pourquoi il faut attendre encore quelques jours? Je pensais que vous aviez toutes les données entre les mains.
Oui, on les avait pour la plupart. Il nous reste encore celles qui nous manquent, c'est-à-dire celles qui montrent que ça baisse beaucoup, beaucoup. Alors, on a une pente qui est descendante, mais qui est lentement descendante. Il y a beaucoup d'activités, de contagion toujours qui sévit dans la province. C'est pas quelque chose qui nous jette à terre, ça ne nous surprend pas. Mais encore suffisamment d'activités pour qu'on décide d'arrêter cela pour le 14 mai, mais la décision va être prise par le gouvernement la semaine prochaine. Comme vous savez, moi, je recommande ça au gouvernement, mais on va le faire avec les données qui vont nous arriver lundi. On les a encore d'aujourd'hui, ça va bien. Et je vois pas qu'est-ce qui pourrait changer dans le paysage pour nous empêcher de faire ça, mais c'est pour dire qu'on va aller jusqu'au 14 sans trop de risques, mais je vais attendre quand même que le gouvernement dispose de ça.
OK, je veux bien comprendre, là, parce que les gens me posent un paquet de questions. Est-ce que cette sixième vague-là, elle est terminée? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas de contagion? Il y a des gens qui me parlent que dans leur entourage, il y a de la réinfection. C'est quoi le portrait exact?
Bon, la première des choses, c'est que le nombre de cas que nous avons, que nous enregistrons à chaque jour, celui-ci est en baisse lente, mais il est en baisse. Le pic aura probablement été au cours des derniers jours. Donc, nonobstant qu'on a eu la période de Pâques, là, à peu près 8-9 jours après, là, on a commencé à avoir vraiment une baisse du nombre de cas. Et c'est la même chose pour les hospitalisations. Donc, on est dans une pente descendante. Nous sommes toujours dans la sixième vague. Elle n'est pas terminée. Nous sommes toujours en pandémie. Selon l'OMS, ce n'est pas terminé. Mais cette vague s'en va vers une fin lente, progressive, moins abrupte que ce qu'on a connu à la cinquième vague. On avait mis plein de mesures au Québec et ça a fait chuter ça plus rapidement. Et maintenant, les réinfections. Si vous me permettez, oui, en effet, il y a des gens qui se réinfectent avec le virus actuel, le variant BA2, si ce n'est pas le BA, en tout cas le BA2.12, mais je ne veux pas revenir dans tous ces détails-là, mais il y a des gens qui se réinfectent et qui ont été infectés avec le Omicron au cours du mois de décembre ou du mois de janvier, même du mois de février. Alors, on voit qu'il y a à peu près 5 à 10 % des cas que nous avons actuellement qui sont des réinfections. Ça ne nous surprend pas beaucoup parce que quand le variant change, quand le virus change de variant à un autre, il est possible qu'il y ait des gens qui reprennent l'infection. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être encore plus malades, mais ça arrive des fois qu'ils le sont beaucoup. Mais nous avons ça. Alors, le vaccin protège bien contre la maladie, son expression grave, mais ne protège pas si bien que ça pour prévenir l'infection.
L'efficacité vaccinale, puis là, on peut prendre quelques scénarios, mais de façon globale, qu'est-ce qu'on sait depuis qu'on a commencé les campagnes? Autrement dit, je prends le cas de quelqu'un qui a eu ses 3 doses, il est protégé jusqu'à quelle hauteur, puis pour combien de temps?
Quelqu'un qui a 3 doses va être protégé à peu près à 90 et 100 % d'avoir une maladie grave. Il va être protégé à peu près à 40 à 60 %, peut-être même un peu plus, contre l'infection, c'est-à-dire que s'il est en contact avec le virus, va-t-il faire une infection? Bien, c'est sûr que ça réduit le fait d'avoir eu une vaccination. Mais le plus important, c'est que ça le protège contre une infection grave. C'est-à-dire, une grave, là, ça ne veut pas dire qu'il est chez lui et qu'il n'est pas bien du tout. C'est quelque chose qui l'amène à être hospitalisé. Et bon, bien sûr, hospitalisé, ça veut dire peut-être soins intensifs et peut-être mortalité, là. Donc ça, c'est l'expression grave. Ça, il y a vraiment une protection solide de ce côté-là. Et ça dure, toutes les études internationales vont montrer que ça va durer à peu près 6 mois. C'est-à-dire, c'est pas que ça arrête après 6 mois, là, c'est que ça commence à baisser après 6 mois. Et c'est pour ça qu'on est assez confortable de dire que si vous avez été vacciné il y a 5 mois, vous pouvez aller la chercher. Parce que c'est entre 5 et 6 mois là, qu'on voit que ça peut commencer à baisser l'efficacité vaccinale par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais ça ne veut pas dire, comme je le répète, que ça devient caduque et qu'il faut tout reprendre parce qu'on est tombé à zéro. C'est une dose de rappel qui remonte l'efficacité vaccinale au niveau que je vous ai donné, pardon, à 90 à 100 % d'efficacité pour prévenir les infections graves. Donc, faut pas courir après, là, si on a eu une vaccination il y a 2 mois, faut pas dire, mon Dieu, j'ai besoin d'une dose de rappel, faut pouvoir patienter au moins 3 mois. On exige un minimum de 3 mois, mais moi, je dis aux gens, si vous attendez à 5 mois, c'est tout à fait correct.
OK. Là, on a tous en tête le scénario habituel, c'est-à-dire que le beau temps arrive, les gens vont sortir, il y aura moins de contagion dans la communauté. Puis quand on va arriver quelque part, je sais pas, moi, en septembre ou en octobre, le temps frais, les gens retournent à l'air. Préparez-vous une autre vague pour l'automne?
Bon, ça, c'est une question de demain. On n'est pas capable absolument de dire s'il y aura une remontée à l'automne. Moi, je vais vous dire qu'avec l'expérience qu'on a au niveau québécois, mais surtout international, on estime qu'il y a des risques importants qui est une remontée à l'automne. Est-ce que ça veut dire qu'on va tomber dans des vagues comme celles qu'on a connues de Micron? Je crois que non, mais s'il y a un nouveau variant qui s'installe et qui est différent, qui est plus contagieux, qui est plus dangereux, là, on va être dans une autre joute. Mais pour l'instant, si on reste avec les variants que nous connaissons, ils sont plus contagieux. Il y en a un là, qui s'installe, le BA2.1.12, là, qui est assez prévalent aux États-Unis, qui ici, c'est probablement du 17-20%, qui est encore plus contagieux que le BA2. En fait, les variants, il faut toujours qu'ils soient plus contagieux que l'autre d'avant, sinon ils ne s'installent pas, parce qu'ils ne prennent pas l'espace, là. Alors, mais pour l'instant, on ne voit pas de ravage avec celui-là, mais il est possible, comme vous le soulignez, qu'à l'automne, avec le retour, exactement ce que vous dites, on ait une augmentation des contacts contagieux et qu'il faille, à ce moment-là, à l'automne, donc à peu près dans 5-6 mois d'ici, inviter les gens à profiter d'une nouvelle dose de rappel. On verra à ce moment-là. Mais c'est sûr que si on regarde la planète en ce moment, il y a plusieurs variants. On suit ça de près. On a la chance d'avoir Dr. Lontain, qui est un expert international dans le domaine, qui suit ça de très près avec nous. Et on voit des choses se présenter dans, mettons, en Afrique du Sud, qui ne nous... je veux dire, faut être attentif à tout ça, là, parce que des fois, on se surprend de voir un variant s'afficher avec rapidité. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets.
Mais est-ce que ça pourrait, au-delà de relancer une campagne de vaccination, nous ramener vers certaines mesures? Là. Puis là, je ne parle pas de confinement, là, mais par exemple, de ramener le port du masque obligatoire.
Bien, ça va dépendre du virus qui va être en place. Si c'est un nouveau variant qui est très nocif et dangereux, c'est certain qu'on va suggérer que les gens portent le masque. Est-ce qu'on va mettre ça obligatoire? C'est une autre question, puisque en ce moment, oui, il fait partie d'un arrêté ministériel qui permet de rendre ça obligatoire. Mais l'idée principale, M. Arcand, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des recommandations et que les gens, en autant que faire se peut, puissent les observer. Et puis, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au terme du 14, lorsqu'on va laisser partir l'obligation du masque. Moi, je soupçonne qu'il y en a quand même plusieurs qui vont continuer à le porter. C'est tout à fait correct. Puis certains autres ne le porteront pas, puis c'est correct aussi. Il faut juste être capable de vivre avec ça. Mais si vous me demandez s'il y aura d'autres mesures qui seront prises, il va falloir regarder ça en fonction de la situation réelle du virus et des risques. Et je suis sûr qu'on va pouvoir tout se comprendre là-dessus parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Il faut bien s'y préparer, mais il ne faut pas non plus se faire peur puis dire ça va arriver dur et etc. Là, je pense qu'on a suffisamment d'expérience là-dessus. Et surtout, si on peut profiter de vaccination et surtout si le vaccin reste efficace comme il l'est très bien avec les variants actuellement, c'est faux. Faut tout mettre ça ensemble.
OK. Dr Boileau, je veux prendre quelques secondes pour parler du dossier du nickel à Québec parce que j'ai de la misère à comprendre. Il y a quand même une recommandation de santé publique dans ce dossier-là, c'est-à-dire que quand on permet d'augmenter, comme le gouvernement le fait, la norme de nickel dans l'atmosphère, j'essaie de comprendre en quoi c'est bon pour les citoyens.
Bien, ça, c'est le gouvernement qui regarde ça. C'est le ministère de l'environnement, de la lutte au changement climatique qui est le porteur de cet ajustement de normes. Il y a sûrement un regard ou une analyse que le gouvernement a fait en tenant compte de tous les éléments pour juger qu'il était correct d'ajuster cette norme-là.
Mais c'est une question de santé publique aussi, ça?
C'est une question de santé publique, tout à fait. Lorsqu'on joue sur des éléments normatifs, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la santé. Et bien sûr, comme vous soulevez la question, lorsqu'on change une norme d'un produit comme celui-là ou quelque endroit que ce soit, c'est normal de se dire, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va nous rendre plus malades? Est-ce que ça va nous porter des risques? Puis effectivement, il peut y avoir des risques associés à ça. Il faut juste qu'ils soient tenus en compte. Je pense que le gouvernement a tenu en compte les opinions qui ont été livrées de ce côté-là par mon prédécesseur, qui a signifié qu'après analyse, que ça ne présentait pas un risque qui était d'une nature telle qu'il fallait s'empêcher de faire ça.
Juste poser une question, parce que moi, je vois des directeurs régionaux de santé publique qui sont pas d'accord avec cette mesure-là. Vous êtes le directeur national. Ouais. Si je vous pose la question, est-ce que vous iriez recommander au gouvernement ou d'accepter d'augmenter le taux de nickel dans l'atmosphère? Il n'y a pas un principe de précaution. Ça serait quoi votre position, vous, comme directeur de la santé publique nationale?
Bien, la première des choses, comme vous le dites, c'est d'être précautionneux, là, je vais dire comme ça, c'est-à-dire de dire un instant, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut changer des règles. Alors, y a-t-il des risques de santé associés à cela? Il y a toutes sortes de changements là, qui se passent dans des sociétés, mais il y a des données aussi qui sont cumulables pour voir y a-t-il réellement un impact. Les directeurs de santé publique, on s'en est parlé hier tous ensemble, puis on regarde ça, puis on se dit, dans le fond, d'abord, il y avait souvent un dépassement de la norme là, qui était là. Je ne veux pas rentrer dans le détail du dossier, mais chose certaine, c'est qu'une fois que c'est changé, là, il faut vraiment passer dans... En fait, j'oserais dire que c'est pas un objectif là d'atteindre les taux qui sont maintenant les nouvelles normes. Ça, c'est un maximum. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est de vraiment surveiller les émissions, surveiller avec la captation de l'air, voir si on respecte ça, regarder les impacts s'il y en a, d'avoir un souci important de ce côté-là.
Je comprends, mais Dr Boileau, moi, je m'attends qu'un directeur national de santé publique indépendant du politique me fasse une recommandation et me dise si c'est une bonne ou une mauvaise idée et de dire au gouvernement, je pense que vous devriez pas faire ça puis que politiquement, ils assument après. C'est parce que je vous trouve pas clair sur cette question-là.
Bien, Monsieur Arcan, je vais tenter de clarifier la situation. Ce que vous vous attendez, c'est ce qu'il faut qu'il soit fait. Et le directeur national de la santé publique doit dire si oui ou non il y a un risque à la santé. Moi, j'ai pris ce dossier-là qui a pris des années à être monté, pas des jours, là, des années. Alors, et la posture qui a été prise il y a de cela plusieurs mois par mon prédécesseur, après avoir fait des analyses scientifiques avec la complicité de l'Institut national de santé publique, avec des scientifiques indépendants qui sont venus au dossier, indépendants, là, dans le sens que ce n'est pas engagé par le gouvernement, là, se sont avérés solides, bien faites, et ils ont dit cet élément normatif-là, qu'on retrouve d'ailleurs la même norme dans plusieurs autres juridictions, Ontario, etc., même c'est plus gros que ça au Texas, mais une norme tout à fait la même norme là, qu'on retrouve dans plusieurs pays européens et les juridictions canadiennes, ils ont dit, c'est correct. Alors moi, de tout réouvrir le dossier, de recommencer, de tout refaire les études, Là, écoutez, je pense que le docteur Arruda était capable de faire ça comme il faut. Et il n'y a pas d'indice que ça a été mal fait. Je l'ai regardé sous tous ces angles-là. Est-ce qu'on a bien respecté les processus? Et ils ont dit, écoutez, ça a été fait avec les meilleures pratiques en santé publique pour regarder ça. Alors, s'il y a des inquiétudes, elles sont légitimes. On peut les entendre. Les directeurs de santé publique n'ont pas fait ces études-là, là, quand même. Il ne faut pas penser qu'ils ont réouvert tout ça. C'est invraisemblable. Mais ils se sont posé des questions, puis avant ça arriver, dire, est-ce qu'on peut y repenser? Est-ce qu'on peut regarder ça? Ben oui, mais ça a été fait pendant des années. Alors, là où on est, c'est, regardez, la norme semble être assujettie à beaucoup de critiques. J'en conviens. Moi, je suis prêt. Si on me dit, vous réouvrez tout ça, je vais le regarder. Mais pour l'instant, je regarde ce qui a été fait par mon prédécesseur et ça a l'air bien solide.
OK, donc vous n'avez pas l'intention de rouvrir le dossier à moins qu'on vous le demande formellement?
Oui, j'ai pas l'intention de réouvrir. Okay. Je veux dire, je peux pas retourner puis dire on réouvre tous les dossiers d'avant. Il y en a eu beaucoup d'autres dossiers. Celui-ci, si on me le demandait, je dirais bon, très bien, on va le réouvrir, on va regarder tout ça en détail pendant des mois. Parce que c'est compliqué de tout refaire ces analyses et ces études de toxicologie environnementale. C'est pas simple. Et ça a été, je pense, fait. Maintenant, c'est pas à moi de prendre cette décision-là, là, si elle doit s'appliquer ou non, cette nouvelle norme. C'est au gouvernement, puis je pense qu'il a décidé.
OK, je sais que je dois vous laisser aller, mais je me dis en même temps, vous pourriez, votre propre chef, décider ça comme directeur national. Moi, je reprends le dossier, je décide de le rouvrir. Vous pourriez le faire? Vous avez le pouvoir de faire ça?
Ben oui, je peux le faire, mais écoutez, moi, j'arrive dans un dossier, là, tu sais, quand je suis en clinique, là, j'arrive à l'urgence, je vois un patient qui a eu son congé, je vais aller chercher dans le stationnement, je vais dire, viens, parce que le médecin qui vient de te voir, là, je suis pas sûr qu'il l'a bien fait un instant. Là, moi, mon collègue, il l'a bien traité, le patient, tu vas pas le chercher dans la salle, tu sais, dans le parking pour lui dire, viens. Là, tu sais, si on me transférait le dossier puis on me dit, regarde, je suis rendu là dans l'investigation, je le continuerai, mais le dossier, il était fait. Okay. Alors, en gros, là. Hein,
je vous laisse aller. Merci, Dr. Boileau.
Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne journée.
Moi aussi. Dr. Luc Boileau est le directeur national de santé publique par intérim. Hier, Québec a présenté son plan de lutte contre les gaz à effet de serre. Québec dit qu'on n'a jamais mis autant d'argent, mais on sera en mesure seulement d'atteindre 50 % des objectifs. J'en parle avec Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur à HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, le discours officiel, c'est de dire on met de l'argent en quantité, on va investir encore plus pour électrifier le transport, mais on ne pourra pas aller au-delà de 50 % de ce qu'on s'est donné comme objectif. Vous, quelle lecture vous faites de ça?
Ben, que c'est malheureusement pas de l'argent qui va résoudre le problème. Et même le plan que M. Charette a présenté hier fait un peu un constat que l'argent ne permet pas de tout régler puisqu'il reste de l'argent du plan précédent. On n'a pas réussi à dépenser tout l'argent pour la lutte au changement climatique dans le plan précédent. Le gouvernement se fait même se vante de dire on va pouvoir en mettre plus et le réinvestir. Mais visiblement, l'argent ne suffit pas. Il faut aussi mettre des mesures qui fonctionnent, qui sont efficaces, et c'est là que je pense que le gouvernement erre, c'est qu'il ne met pas en place les mesures qui permettraient d'atteindre les cibles.
Alors, quelles seraient ces mesures, selon vous?
Mais le gouvernement met par exemple 3,5 milliards de dollars sur 5 ans dans des subventions à l'électrification, des bornes électriques, des achats d'autobus électriques. C'est très bien tout ça. Le problème, c'est que les Québécois, chaque année, mettent 20 milliards de dollars pour l'achat de véhicules à essence, des VUS et maintenant quelques voitures, mais de moins en moins. Donc, on voit qu'il y a un mouvement de fond, une force vraiment phénoménale pour l'ajout de véhicules à essence sur la route, 20 milliards par année en véhicules à essence, ça c'est les chiffres des dernières années, et là on veut mettre 3,5 milliards pour l'électrification, pour des subventions aux véhicules électriques, ça ne peut pas contrer le courant de fond qui nous amène vers toujours plus de véhicules à essence. Et là on a 8 ans pour agir, juste donner quelques bonbons pour ajouter des véhicules électriques, c'est pas suffisant pour contrer cet afflux massif de véhicules sur les routes.
Mais quand j'écoutais ça hier, je me disais, puis là, on essaie de pas tomber dans le cynisme à outrance, mais quand même, Est-ce que c'est plus honnête de nous dire, avec les mesures que j'annonce, on va atteindre 50% de ce qu'on cherche, qu'au fédéral, nous arriver avec des grands discours fleuves, des promesses incroyables, puis se faire dire par le commissaire à l'environnement qu'on est loin du résultat promis?
Oui, vous avez entièrement raison. Il faut reconnaître que le gouvernement a ce mérite-là, c'est vraiment d'avoir plus de transparence dans l'atteinte des objectifs. Et ça, je le félicite pour ça. Puis je le félicite aussi parce que il annonce que chaque année, il y aura une mise à jour et des aménagements qui vont être faits. Donc le plan va être plus dynamique et on a besoin de ça. Maintenant, il faudrait s'assurer que les mises à jour soient un peu plus fondamentales. Parce que si on se rend compte qu'on n'atteint pas la cible, et que l'objectif, c'est d'atteindre la cible, mais il faudrait qu'il y ait une remise en question. Et c'est malheureusement, il n'y a pas une remise en question assez profonde dans la nature des programmes, parce que si on n'atteint pas la cible, et peut-être que c'est parce que la nature des programmes ne convient pas.
Une question sur taxe carbone, marché du carbone. Là, je sais que le fédéral va plus loin que le Québec. Québec répond, ouais, mais on peut pas calculer ça de la même façon. Qu'est-ce que je dois savoir là sur la taxe carbone, sur son effet à justement permettre d'atteindre, peut-être pas à elle seule l'objectif, mais quand même de faire un bout de chemin?
Mais au Québec, strictement parlant, on ne paye pas la taxe carbone du fédéral. On paye un prix du carbone. Même le gouvernement va vous dire, vous le payez pas le prix, c'est les distributeurs d'essence qui le payent le prix. Mais en bout de ligne, c'est les consommateurs qui payent l'essence, qui payent le prix du carbone. Ce prix du carbone, il est aujourd'hui un peu en dessous de $40 la tonne au Québec. Ça fait environ 7-8 cents le litre d'essence. Donc on le paye quand, même si c'est caché dans le prix, on le paye. Le gouvernement fédéral va augmenter de $15 par année le prix de la tonne de carbone d'ici 2030 pour arriver à $170 la tonne. Donc nous, aujourd'hui, on est à $40. Le gouvernement, au fédéral, le prix est déjà à $50. Il va y avoir un décalage qui va amener à des négociations. Le gouvernement fédéral va dire « ça ne marche pas, votre prix du carbone n'est pas suffisant ». L'excuse que le gouvernement a donnée pour dire « on ne peut pas les comparer », c'est entièrement faux. On peut tout à fait directement comparer ce prix du carbone. C'est d'ailleurs comme ça que le gouvernement fédéral va essayer de juger si les deux systèmes sont équivalents. Et le Québec va être en retard. Il va dire non, ça ne marche pas. Vous n'avez pas les réductions parce qu'on n'a pas les réductions qu'on vise et votre prix est trop bas. Donc il va y avoir des négociations fédérales, provinciales, si évidemment Justin Trudeau reste au pouvoir ou les libéraux restent au pouvoir dans les années à venir.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Pierre-Olivier Pinault, professeur HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, hier, on a appris que le président de la FTQ Construction, Rénal Grondin, quittait son poste. Pourquoi? Parce que la presse a publié un article dans lequel on apprenait que le président, donc, avant qu'il soit à la FTQ Construction, a agressé et harcelé une employée, donc employée administrative, entre 2008 et 2010, qui a un jugement qui a été rendu, une décision de la Commission des liaisons professionnelles, qui, justement, condamnait ces méthodes-là. Puis là, on parle de harcèlement majeur, là, d'écœurer quelqu'un, de convoquer cette personne-là, de la suivre dans le stationnement à un point tel qu'elle a encore aujourd'hui des séquelles de ce qu'elle a vécu. Le ministre Jean Boulay a pété une coche et finalement, on a appris, entre guillemets, que Rénal Grondin a démissionné. Le président de la FTQ, Daniel Boyer, est avec nous. Bonjour, M. Boyer.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, saviez-vous que M. Grondin avait un dossier de harcèlement contre une employée?
Pas du tout. Moi, j'ai appris ça mardi soir. Donc, je n'y étais absolument pas au courant. Assez difficile d'être au courant, d'ailleurs. Là, vous parlez de la décision de la commission des lésions professionnelles. Là. Il y a eu une ordonnance de non-divulgation lors de l'audition. Il n'y a aucun nom qui apparaît dans la décision. Donc, c'est assez difficile de mettre la patte là-dessus. Donc, même si on avait fait des vérifications, je pense pas qu'on aurait trouvé cette décision-là. Bon, heureusement, elle a été trouvée. Puis moi, je dois souligner le travail qui a été fait par la FTQ Construction en peu de temps d'exiger la démission de Renaud Grondin. Ce qui s'est passé, là, c'est choquant. Ça n'a pas de bon sens. Ça devrait pas se produire aujourd'hui. Ben, ça s'est pas produit aujourd'hui, là, mais ça n'aurait jamais dû se produire.
Attendez, là.
Puis la FTQ.
Je veux juste comprendre une affaire, là. Vous me dites que personne ne savait ça à la FTQ. Il n'y a pas un employé qui savait ça. Il n'y a personne qui était au courant. Ça n'a jamais monté. Vous n'aviez pas un avocat, Robert Lorrain, qui était justement l'avocat de la FTQ, qui était justement, lui, aux auditions de la Commission des lésions professionnelles?
Oui. Ben oui, mais Robert Lorrain, je ne sais pas à qui il a parlé, puis s'il a parlé à quelqu'un, il y a probablement du monde, des gens qui étaient au courant, puisque cette affaire-là a finalement sorti 10 ans plus tard.
Mais il n'y a personne dans la FTQ Construction, mettons, qui était au courant, qui a jugé bon de le dire.
Exactement. Et puis moi, je peux vous dire que pour avoir parlé avec Éric Boisjoli, qui est directeur général de la FTQ Construction, ni lui, ni moi, on était au courant de ça, là. Puis quand on a été mis au courant, moi et lui, on s'est parlé hier matin, puis on a dit, il faut que Renaud Grondin démissionne, et on a mis en marche un processus, et finalement, Renaud Grondin a démissionné quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard même, je vous dirais. Puis c'est pas suite à un appel du ministre, là. La décision de Renaud Grondin de démissionner a été prise avant même que le ministre m'appelle. J'ai informé le ministre de la décision et de la démarche qui avait été faite par la FTQ Construction.
Mais, M. Boyer, là, moi, j'ai de la misère à croire. Là. Puis je sais que la FTQ Construction, c'est l'État dans l'État. On l'a vu à la commission Charbonneau, là, avec Jocelyn Dupuis et compagnie. Mais que personne a flagué ça, m'a prendre cette image-là ce matin, a levé le drapeau à la FTQ Construction pour dire « Hey, ce gars-là a harcelé une employée, pas une fois, ça a duré 2 ans, il y a une décision qui a été rendue, puis ce gars-là a réussi à se faire élire président de la FTQ Construction sans que personne lève le petit doigt. »
Ben moi, je vous dis, là, il y a sûrement des gens qui étaient au courant puisque ce dossier-là sort aujourd'hui.
Okay.
Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait personne, justement, qui ait levé un flag.
Allez-vous faire
une... dans la haute direction, là, Éric Boisjoli, moi, là, on n'était absolument pas au courant de ça.
Allez-vous faire une enquête pour savoir qui savait quoi puis pourquoi rien n'a été fait?
Ben, je pense qu'il y a un processus qui est à prescrire à la FTQ Construction. Donc, ça regarde la FTQ Construction, mais c'est comme on dit...
Ça ne vous regarde pas, vous?
Ben, ça regarde la FTQ Construction, mais effectivement, moi, ce que j'ai à assumer comme leadership, là, c'est de dire, écoutez, s'il y a du ménage à faire chez vous, faites-le, là. Puis, je pense que c'est de toute façon ce qui se fait. Mais, écoutez, les membres, Renaud Grondin, là, c'est un élu du congrès de la FTQ Construction. Les membres, quand ils ont élu Renaud Grondin, là, les membres dans la salle n'étaient pas au courant de ces faits-là. Est-ce qu'il y en a qui étaient au courant? Probablement. J'imagine.
Je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas dit. M. Boyer, ça envoie un drôle de message aux femmes qui travaillent dans l'industrie de la construction, que ce soit des femmes directement là, sur les chantiers, des femmes qui sont des employées de bureau. Il y a un gars qui harcèle une employée pendant 2 ans. Ce gars-là a une promotion au sein de la FTQ. Du monde qui le savent, d'autres qui le savent pas. Les hauts dirigeants sont pas au courant. Ils ont peut-être une enquête qui va être aménagée pour faire la lumière. Sérieusement, là, moi, je suis une femme puis je suis membre de la FTQ Construction, là. Je trouve ça assez moyen.
Ben, moi, je dois vous dire, monsieur Arcan, là, que je trouve ça assez moyen, la situation dans les milieux de travail où il n'y a pas de dénonciation, pas juste dans le secteur syndical, construction, dans l'ensemble des secteurs d'activité. Je souhaite qu'il y ait des dénonciations.
Non, mais quel message on envoie aux femmes qui travaillent pour la FTQ Construction? Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux femmes qui sont membres de la FTQ Construction?
Monsieur Arcan, ce que je vous dis, là, c'est que moi, Daniel Boyer, là, je vous dis que c'est s'il arrive des événements comme ça, on doit les dénoncer. Qu'on soit un homme ou une femme, on doit les dénoncer. Puis tant aussi longtemps qu'il y a une culture du silence, ben on n'arrivera pas. Puis c'est pas juste dans nos milieux à nous, là, c'est un peu partout. Donc, arrêtons la culture du silence et dénonçons ce qui est inacceptable, parce que ça, c'est des faits inacceptables.
OK. Juste en terminant, je sais que vous avez un autre rendez-vous, là. Est-ce que le président de la FTQ a le pouvoir d'ordonner une enquête sur cet événement-là, la séquence des événements à la FTQ Construction?
Ben, non, je penserais pas, mais ça, c'est toujours... vous savez, les affiliés sont entièrement... Non, mais les affiliés sont entièrement autonomes à la FTQ, mais je vous dis ça, puis en même temps, je suis capable d'assumer le leadership de ma fonction, là. Si moi, je souhaite une enquête, je vais convaincre les gens de faire une enquête. Mais je pense qu'il y a un processus qui a été bien enclenché à la FTQ Construction. C'est le congrès de la FTQ Construction dans 3 semaines, et j'ose espérer qu'on va souhaiter élire des dirigeants qui n'auront pas de squelette dans le placard, là. J'ose espérer ça, là.
Est-ce que le passé est garant de l'avenir?
Ben, j'espère que non, parce qu'il y a des affaires qu'on a passées sous silence, pas juste chez nous, partout dans la société québécoise et dans le monde, qu'on a passées sous silence trop longtemps dans la société. Puis j'espère qu'on va dénoncer ces gestes-là. J'espère qu'on va les dénoncer. Puis j'espère que le passé n'est pas garant de l'avenir, parce que sinon, on va être découragé, là. Il ne faut pas que ça se reproduise.
OK. Merci, M. Boyer. Bonne journée.
Hey, merci, M. Arcand.
Au revoir. Daniel Bonjour. Boyer, le président de la FTQ. La saison du Canadien va se terminer.
Ce soir, contre les Panthers de la Floride, 82e et dernier match de cette saison qui a été longue un petit peu. Hein? Je pense que
oui,
avec plusieurs péripéties et qui n'a pas été comme on pensait qu'elle serait.
Non.
Après la participation en finale de la Coupe Stanley.
Mais c'est assez incroyable quand tu y penses. Puis là, calendrier inhabituel et tout ça, là, mais de passer d'une finale à la dernière place au classement général avec changement d'entraîneur, blessé, départ.
La COVID.
Mais tout ça ensemble, là.
Le calendrier qui a été modifié en cours de route. Non, ça a été, écoute, là, moi personnellement, là, et pour plusieurs, et probablement pour notre invité aussi, c'est oui, du jamais vu au cours de sa carrière. On parle de Pierre Gervais. Ça va être son dernier match ce soir. C'est lui qui est le gérant d'équipement chez le Canadien de Montréal. Salut, Pierre.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Comment ça va?
Bonjour. Ça va très bien. Très, très bien.
Donc, t'as pas de regrets, rien, tu...
Oh boy, non. Si j'en avais eu, là, je vais te dire qu'avec cette saison-là, là, c'est assez clair dans ma tête que je suis rendu là, c'est terminé, puis c'est bien, bien le fun. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Oh, tu parles de la saison. Est-ce que ça a été la saison la plus difficile de ta carrière?
Oh, assurément. Assurément. Écoute... Tu sais, je vais te dire, ben franchement, ça a commencé, là. Tu sais, en nous, habituellement, les gars, ça fait quelques mois qui se sont pas vus, puis qu'on les a pas vus, qui sont pas venus ici. Puis les gars arrivent avec leur équipement, puis tout le monde sont de bonne humeur, puis ça jase. Mais cette année, là, c'était à peine quelques semaines après la fin de notre saison. Les gars sont arrivés, tu sais, déjà, ils étaient fatigués, ils traînaient des pieds, ils étaient déçus par l'élimination, puis pas qu'ils n'étaient pas contents de se voir, là, puis c'était, le feeling était différent. Puis même nous autres, c'était comme, c'était top de recommencer, là. Fait que ça partait de comme ça, puis là, en plus, ben comme vous avez dit, toutes les blessures du début de l'année, puis le truc à Carey Price, puis après ça, ben la COVID, puis tout ce que tu veux, c'était comme, non, c'était pas le fun pour tout, là.
Est-ce que tu dirais que déjà au mois d'août, tu voyais venir un peu ce qui s'en venait?
Oui. Oui, on a parlé de nous autres, là, puis ben, peut-être pas si pire que ça, puis tu sais, je savais déjà les blessés, j'avais une bonne idée, je me suis dit, oh boy, ça va pas bien, puis là, quand tu vas arriver des gars comme ça, puis après ça, ben, le truc à Carey, tu sais, c'était un feu roulant de déception et de mauvaises nouvelles.
Je sais que Michel Bergeron t'a dit un jour, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais... Je voudrais quand même, sans aller dans le détail, là, je ne veux pas les noms.
Il faut que j'aille, il faut que j'aille.
Non, non, va-t'en pas.
Ça va être dans son livre, ça.
Non, mais,
c'est ça, ouais. Ouais.
Mais j'imagine qu'il y a des athlètes plus difficiles que d'autres, des athlètes, des joueurs plus capricieux, plus exigeants, plus prima donna. Ils ne sont pas tous pareils, là, c'est sûr.
C'est sûr, sauf que les joueurs de hockey, là, moi, pour avoir parlé avec des jeunes amis, justement, le Montréalais Red Body, qui est gérant d'équipement des Packers de Green Bay, et j'ai parlé des gars qui sont dans le baseball, dans la NBA, les athlètes au hockey, là, des gars qui sont très, très polis. Je vais te dire que la plupart, là, des pas bons, là, des vrais pas bons, là, j'ai peut-être sur les doigts d'une main dans toute ma carrière.
Puis être pas bon, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il faisait?
Ben, pas bon. Tu sais, des gars qui c'est des... écoute, je peux t'en nommer un, là, Yann Nenima, qu'on avait acquis de Dallas contre Mike Ribeiro. Écoute, lui, c'est un Finlandais. Puis, comme les Finlandais, c'est poli, c'est bien élevé. C'est... Lui, c'est tout le contraire. Là. Il y avait de la moitié animal dans lui et la moitié humain. Là. C'était comme... Puis d'ailleurs, le gars de Dallas me l'avait dit. Il dit, tiens, ben, t'as tu que mon homme t'en vient pas pire. Fait qu'effectivement, il avait entièrement raison. Puis d'ailleurs, on l'a vu durant l'année. Puis c'est pas des gars que moi, j'ai eu de la misère avec eux autres. T'sais. T'sais, c'était des gars que tout le monde avait de la misère avec eux autres. Fait que quand tes propres coéquipiers ne peuvent même pas te sentir, là, c'est comme, OK.
Mais Pierre, tu te retires avec la réputation d'être le meilleur dans ta business à travers la Ligue nationale. Tu sais, la preuve, c'est que tu as participé aux Jeux olympiques. On a fait appel à tes services quand c'est le temps de participer aux Olympiques, Coupe du monde, ces choses-là. Tu peux dire que tu te retires vraiment là au sommet de ta gloire, de ta carrière, là?
Ben écoute, premièrement, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup, mais j'ai jamais pensé que j'étais le meilleur, puis je le pensais jamais. Je réponds aux gens que je suis dans les 32 meilleurs, fait que je suis quelque part là-dedans. Écoute, oui, puis je suis encore en bonne santé, heureusement, je vais rester avec l'organisation, là, mon emploi reste à être déterminé, mais ça va être de quoi de plus léger, là, pas niveau hockey. Puis... Écoute, je suis rendu là. Ça fait 2-3 ans que j'y pense, là. Puis tu sais, à un moment donné, là, les nuits courtes, puis les deux matchs en deux soirs, puis tu sais, c'est quoi, hein, ouais. La route, puis tu reviens, puis tu pratiques le lendemain, puis un autre game, puis tu repars, puis... notre voyage qu'on a fait, là, les 5 matchs en 14 jours là, sur la route, là, qu'on a commencé à Boston, puis on a fini à Minnesota, en passant par Dallas, puis Denver, puis Arizona, puis Vegas, puis tu sais, c'est comme un moment donné, tu dis, hey, là, ça se peut pas, là. Quand tu reviens de là, t'es brûlé bérette, là, c'est encore go, 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 là. Fait qu'à un moment donné, là, 60 ans, là, tu dis, là, je fais le pas droit, prends-tu plus relax un petit peu.
Et là, je comprends que ta conjointe, elle, qui s'occupait de la famille, s'en va travailler, puis toi, tu prends relève dans la maison.
Exact. Tag team dans le carte de porte. Puis... non, disons qu'elle est bien contente. Elle est bien contente. Ça fait 12 ans qu'elle est à la maison. Elle prend soin des boys, elle prend soin des chiens. Fait que elle est bien contente. Elle va commencer à travailler en juin. Puis moi, je suis bien content de rester à l'arrière et m'occuper de tout ça.
Là, c'est ta dernière journée. J'espère que les autres vont rentrer à l'aréna aujourd'hui et vont dire, Pierre, assieds-toi ici, profite de ta journée, regarde le match. On s'occupe de tout là aujourd'hui. Là.
Tu devrais leur parler parce qu'à date, c'est pas ça.
Merci beaucoup
et
d'avoir été
passant,
là.
Pierre, oui, est un grand amateur de vin, à part ça, Paul.
Oh.
Yes, on
pourra échanger bien maintenant qu'il y a du temps libre.
Oui. Non, ça c'est ma grande passion.
Parfait, ben, content de savoir ça. merci d'avoir été là ce matin, puis merci beaucoup pour votre carrière, c'est impressionnant.
Ça fait plaisir, merci beaucoup.
Okay. Salut Pierre.
Bonne journée, au revoir.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.